Bonjour, je suis Noémie Maillard, étudiante en sciences du langage à l'Université de Franche-Comté. Pour la nuit de la lecture, je vous propose un extrait de Adolphe Gouhénon, un livre écrit par Emmanuel Pécontal et Paula Seltzer en 2022, publié aux Presses universitaires de Franche-Comté dans la collection des cahiers de la MSHE. Départ du Havre, 1848. Dans une nuit glaciale, le samedi 29 janvier 1848, 69 hommes prirent le train pour le Havre à la gare du Nord. Malgré leur tardive, une foule dense s'était amassée dans le hall de la gare pour leur faire leurs adieux. Après un court trajet sur la ligne nouvellement construite, ils arrivèrent au Havre le matin suivant et se mirent immédiatement à préparer leur voyage transatlantique, à acheter des fournitures et régler les derniers détails. Le temps au Havre se déroula rapidement et le mercredi, leur séjour arrivait déjà à sa fin. Ce soir-là, un banquet d'adieu, présidé par Cabet, fut organisé en leur honneur au Château Vert, une belle villa au bord de mer située à quelques kilomètres de la ville. Alors que le dîner touchait à sa fin, le jeune médecin Charles Leclerc leva son verre à la santé de ses amis pour fêter le départ imminent des Icariens. Ils portèrent un toast à leur dévouement pour le rêve icarien et pour le bonheur de l'humanité. Le lendemain, ils partiraient pour une nouvelle vie en Amérique. À 9h le matin suivant, le Rhum, un 3-mâts agrément carré de 43 mètres de long et pesant 700 tonnes, était sur le point de quitter le port. Construit à Bath, dans le Maine, une année plus tôt, le navire était bien équipé pour le voyage à travers l'Atlantique. Le capitaine Robert Pimenson, qui naviguait depuis l'âge de 15 ans, était un homme très expérimenté, jouissant d'une excellente réputation. Parmi les 140 passagers du capitaine Manson, la moitié appartenait à la première avant-garde. Une seconde avant-garde devait suivre, puis une troisième et enfin plusieurs vagues de colons avec leurs familles. Leur rêve d'Icarie prenait enfin réalité. Leur chef, Adolphe Gouhénon, fêterait dans quelques jours son 44e anniversaire. Dans l'air frais du matin, ils prêtèrent leur engagement solennel devant Cabet. Persistez-vous à déclarer que vous connaissez parfaitement le système, la doctrine, les principes de la communauté icarienne ? Oui ! Êtes-vous résolu à supporter toutes les fatigues et toutes les privations, à braver les dangers dans l'intérêt général commun ? Avec enthousiasme, oui, oui, oui ! Les hommes firent leur adieu à leurs familles et amis. Les gendarmes contrôlèrent les passeports et quittèrent le navire. Sur le pont arrière, les 69 de l'avant-garde, vêtus de leurs tuniques de velours noir et leurs chapeaux de feutre gris, entonnèrent en chœur le chant du départ icarien. Lève-toi, travailleur courbé dans la poussière, lève-toi, travailleur courbé dans la poussière, l'heure du réveil a sonné. Au bord américain, voit flotter la bannière de la sainte communauté. Plus de vices, plus de souffrances, plus de crimes, plus de douleurs. L'auguste égalité s'avance. Prolétaire, sèche tes pleurs. Allons fonder notre Icarie. Soldats de la fraternité, allons fonder notre Icarie, le bonheur de l'humanité. Les hommes de la première avant-garde représentaient une vaste palette de professions. Parmi les Icariens sur le Rhum se trouvaient Henri Lévy, Bondidier Berthet et Joseph Terme, tous les trois tisserands. Dieudonné Mélier, âgé de 21 ans, était boulanger. Jean Caudron était fermier. Luc Bourgeois était tailleur de son métier, mais fut lui aussi mentionné comme fermier dans la liste des passagers. C'était un homme instruit qui parlait même peut-être plusieurs langues. Élie Drouard était un jeune ébéniste. Il y avait aussi des marchands, un relieur, un sellier et un cocher. On y trouvait également un cordonnier nommé Joseph Piquet et un médecin espagnol nommé Rovira, qui avait été envoyé pour représenter les Icariens de Barcelone. Il y avait des charpentiers, des carriers, un horloger, un forgeron, un boucher et un nommé Pierre Petit, qui était peintre. Eugène Rougier, avocat, était le secrétaire du groupe. Alfred Picnard était un architecte qui avait étudié à l'École centrale des arts de manufacture de Paris et qui aurait plus tard une carrière fructueuse. Le plus jeune de ces hommes n'avait pas encore 20 ans, alors que le plus vieux avoisinait les 60. L'âge moyen de l'avant-garde s'élevait à 34 ans. Bien qu'ils ne fissent pas partie de l'avant-garde, deux autres Icariens nommés Senez et Erquet se trouvaient à bord du Rhum. Chacun voyageait avec sa femme et un jeune enfant. Il devait s'arrêter à la Nouvelle-Orléans pour se joindre plus tard à la première vague de colons qui devait arriver en septembre. Le 3 février 1848, le Rhum quitta le port, et le cœur des Icariens s'estompa. Pour certains d'entre eux, ce serait la dernière fois qu'ils verraient la France, leur famille ou les deux. 53 jours en mer. Depuis le navire, Gouhénan regardait Cabet, debout, sur le quai, parmi les nombreuses familles et amis qui étaient venus souhaiter bon voyage aux Icariens. Choisi par Cabet, comme délégué et chef de l'avant-garde, Gouhénan devait superviser un comité de direction composé de Raymond Mazoir, des deux médecins Charles Leclerc et Juan Rovira, d'Eugène Rougier, Guillaume Guillot, Jean-Jacques Buisson et Jean Millet. Alexis Marchand était le trésorier. Durant la traversée, du début février à la fin mars, les Icariens tinrent deux journaux, l'un écrit en commun, donnant les rapports factuels et consensuels des événements à bord, et l'autre écrit par Gouhénan, révélant ses préoccupations. Le journal de Gouhénan fournit une vision probablement plus réaliste de la situation qui se détériora rapidement après le départ. La première entrée du journal de Gouhénan est datée du 3 février. À peine sorti de la Manche, il nota la beauté de la mer. Mais de cette beauté allaient vite émerger des scènes pénibles. Au début de la première soirée, 5 ou 6 Icariens succombèrent au mal de mer. Le jour suivant, ils étaient tous malades, excepté 7 personnes. Le lendemain, la pluie, la haute mer et les vents contraires firent des ravages sur presque tous les Icariens, y compris les médecins et les cuisiniers. Après 3 jours, le vent se calma et le navire commença à virer de bord. Pour répondre au mécontentement, Gouhénan décida de convoquer un conseil pour établir des règles de bord. Ce serait l'une des innombrables assemblées convoquées pour discuter des moindres détails de l'organisation. Gouhénan avait certes été nommé chef de l'avant-garde, mais les règles communistes l'obligeaient à prendre toutes les décisions par consensus. Bien qu'ils soient tous frères en icarisme, les hommes venaient d'horizons différents et s'avéraient généralement étrangers les uns aux autres. Dans l'esprit de Gouhénan, l'établissement de règles et procédures à bord permettait de structurer et de discipliner le groupe pendant le long voyage. Le 8 février, la mer était haute, les vents favorables et ils purent quitter la Manche. Mais dès le lendemain, le temps se gâta de nouveau. Après seulement 5 jours en mer, ces pénibles conditions de navigation avaient sévèrement atteint l'humeur des Icariens. L'inquiétude s'installait, non tant pas chez eux qui étaient alités, mais parmi ceux qui luttaient contre le mal de mer. Gouhénan se plaignit dans son journal du comportement égoïste de nombreux d'entre eux, un piètre début pour l'avant-garde d'une société communiste. La deuxième semaine commença sous des temps plus cléments, et Gouhénan travailla à occuper ses hommes. Il écrit dans son journal « 11 février, le temps est plus propice, convocation du conseil pour reprendre et terminer le règlement. 12 février, le vent de nouveau contraire nous tient toujours un bon nombre de frères invalides. Néanmoins, je réunis dans l'autre pont l'Assemblée Générale pour lui donner connaissance du règlement avec toutes les instructions nécessaires. 13 février, le vent qui semble nous apporter un peu de calme donne à nos physionomies des expressions de gaieté et de joie. Je profite de l'occasion pour donner une petite fête à bord en invitant à dîner le capitaine et les 5 passagers grenoblois que vous m'avez recommandés. » Fin de citation. À partir de la mi-février, le temps se stabilisa et resta paisible pendant une bonne partie de la traversée. Gouhénan tira parti de ces conditions pour mieux connaître les diverses industries et capacités qui se trouvaient parmi eux. Il convoqua le conseil pour discuter son plan d'organiser le groupe en sections. Une assemblée générale s'ensuivit pour exposer le plan aux membres de l'expédition. Au début de la traversée, le capitaine Manson n'était guère disposé envers les Icariens, mais les relations se firent bientôt plus amicales. Pendant tout leur voyage, les Icariens resteraient convaincus de pouvoir convertir tout le monde à leur doctrine et pensèrent être sur le point de convertir Manson. Nos doctrines lui paraissent fort belles, il en parle avec le respect d'un homme presque convaincu. Il est plus probable que le capitaine ait été satisfait d'avoir parmi ses passagers un groupe discipliné et autonome qui ne créait aucun problème à bord de son navire. Les Icariens prêtaient fortement attention à leur hygiène et suivaient des règles strictes à ce sujet. Le capitaine Manson demanda même à Gouhénan et aux deux docteurs d'appliquer leur régime sanitaire à tous les passagers. Le vendredi 18, le Rhum naviguait entre les Açores et l'Espagne sur une mer calme et sous des vents légers. Les hommes se réunirent de nouveau pour finaliser l'organisation en sections et élire le chef de chacune d'elles. Par ailleurs, afin de les tenir toujours occupés, Gouhénan ordonna une inspection des uniformes icriens le dimanche. Il écrit dans son journal « Ce jour a été pour nous un jour de fête. Suivant l'invitation du délégué, après le dîner, tous les Icariens ont revêtu leur uniforme et ont procédé aux soins d'une grande tenue. Ensuite, ils sont montrés sur la dunette et se sont placés deux par deux et par rang de taille. Nos premières évolutions ont commencé en présence de tout l'équipage et des passagers étrangers réunis. Pour terminer, le jour par une fête, nous avons cessé tous nos travaux accoutumés, renvoyé au lendemain les cours du soir et, après dîner, le son de la flûte, du violon et de l'accordéon a invité tous les Icariens à un bal joyeux qui a duré jusqu'à 10 heures de la nuit. » Fin de la citation. Après le 21 février, une grande agitation commença à se répandre parmi les Icariens. 4 ou 5 des frères devinrent même hostiles. Le samedi, la colère monta et une partie des hommes exprimèrent leur désapprobation à l'égard de l'organisation. La réponse de Gouhénan fut de nommer un comité de gestion des provisions alimentaires, composé de ses adversaires, Picnard, Terme, Blitz-Lenné, Rougier et Mélier. La plupart d'entre eux étaient des hommes éduqués. L'avocat Rougier, l'architecte Picnard et Blitz parlaient couramment l'anglais. Ce dernier servant d'interprète aux Icariens. Terme était un tisserand instruit et le chef local des Icariens de Vienne en France. Chacun de ces hommes était qualifié et aurait pu être nommé chef de l'avant-garde au même titre que Gouhénan, d'où il contestait le commandement. À la fin du mois, Gouhénan avait plus ou moins réussi à remettre de l'ordre dans ses troupes et se félicita de voir les différentes commissions accomplies. Leur tâche est rédiger leur rapport sur l'inventaire des provisions. Assidu dans ses manœuvres dilatoires, il avait fait distribuer des vestes de flanelle et avait demandé au jeune horloger, Léon Tessier, de le collecter et de contrôler les montres dont il se plaignait du mauvais entretien. Lors d'une nouvelle réunion, il nota malgré tout que les problèmes persistaient. Il écrit dans son journal « Les difficultés augmentent, les discussions s'égarent, les caractères s'aigrissent, le fantôme du vieux monde montre souvent la tête. Il s'agit de la rédaction de notre journal. Rougier prétend qu'il a été nommé par vous, vous avez le droit exclusif de le rédiger à sa manière. Les uns veulent qu'on ne désigne ni les personnes, ni les éléments. Les autres veulent plus de régularité. Enfin, pour tout concilier, il est convenu que le journal se bornera à la narration des faits généraux de la traversée, que nous ferions une lettre collective pour tranquilliser nos familles et que nous vous adresserions à part une lettre de renseignement. » Fin de citation. Gouhénan insista pour que le comité de direction se réunisse tous les jours, pour avoir l'œil et l'esprit toujours attentifs sur les germes qu'il apercevait dans le conseil. Outre ses préoccupations pour maintenir la cohésion de son groupe, le capitaine Manson lui fit part de ses soucis concernant le mauvais temps et ses conséquences sur la durée du voyage. Gouhénan dut recruter une commission chargée de fixer un menu standard tenant compte des provisions disponibles pour le reste du voyage. La seconde semaine de mars fut encore consacrée au traitement du mécontentement qui n'avait toujours pas disparu. Gouhénan pensait qu'il provait essentiellement du fait que la plupart de ses hommes ne connaissaient pas assez bien la doctrine communiste. Il organisa par conséquent des cours d'icarianisme. Finalement, le 17 mars, les passagers du Rhum vinrent à la terre pour la première fois depuis qu'ils avaient quitté la Normandie. Ils naviguaient le long des côtes de Saint-Domingue, suffisamment prêts pour apercevoir les arbres et les maisons sur les montagnes. Après 43 jours en mer, ce fut un soulagement bienvenu pour les Icariens qui écrivirent dans leur journal. « Ce spectacle nous a charmés tout le jour et nous n'en avons détourné notre vue que quand la nuit est venue, le couvrir de son voile. » Pendant le reste du voyage, ils naviguèrent à proximité des Caraïbes, passant au sud de Cuba, avant d'entrer dans le golfe du Mexique le 23 mars. 3 jours plus tard, ils entrèrent dans l'estuaire du Mississippi où ils prirent contact avec l'activité frénétique du Nouveau Monde. Les Icariens écrirent dans leurs lettres communes. Partout des navires, des chaloupes se croisent dans tous les sens, des bateaux à vapeur qui hennissent avec fierté. C'est un spectacle des plus imposants. Au milieu de tant de magnificence, nos cœurs s'électrisent d'enthousiasme. Le lien qui les unit semble devenir plus étroit et nous nous sentions remplis de force physique et morale. Nous avançons déjà à grande vitesse dans la cour majestueuse du fleuve. Un vapeur qui entraîne 2 navires, un sur la droite, l'autre par derrière, vient nous remorquer et nous enchaîne à sa gauche. Nous marchons unis et remontons avec vigueur. tous nos frères, tous les passagers visitent le bateau à vapeur et s'impressionnent à loisir de faits si nombreux et si divers. » Fin de citation. Cette image pittoresque, décrite dans leur lettre commune, est plus idyllique que la dernière partie du journal de Gouvenant. En effet, la cohésion de l'avant-garde restait précaire à la fin de leur longue traversée. Gouvenant écrit dans son journal. 16, 17 et 18 mars. Assemblée générale. La commission des vivres, qui n'avait pas voulu me faire un rapport complet, m'oblige de consulter l'Assemblée générale. C'était, suivant moi, une mesure très impolitique, mais je ne pouvais pas l'éviter. 19 mars. Entretien particulier très long avec les diverses commissions. 20 mars. Assemblée générale pour la fixation des vivres à acheter. Là, j'ai vu se manifester bien des exigences peu dignes de vrais Icariens, résolus à tout supporter, même les privations. 21 mars. Le moment de déballer nos fusils est arrivé, et c'était aussi un bon moyen, en les distribuant, d'occuper et de distraire tous les frères, car rien n'est plus funeste que l'oisiveté à bord. 22 mars. Même occupation. 23 mars. Pour ne plus laisser de repos à nos frères, je fais visiter toutes nos malles, tout inventorier. 24, 25 et 26 mars, réunion continuelle, révision des commissions, instructions sur la conduite que nous aurions à conduire pendant notre séjour à la Nouvelle-Orléans. Fin de citation. Le long et difficile voyage arriva à son terme le 27 mars. Mais les 53 jours en mer avaient semé parmi les Icariens les graines de la discorde qui allaient bientôt germer dans leur nouveau pays. C'était un extrait de Adolphe Gouhénon, chapitre 7, Voyage en Icarie, par Emmanuel Pécontal et Paula Setzer, publié aux Presses universitaires de Franche-Comté, dans la collection des cahiers de la MSHE. Belle nuit de la lecture.